Le journal présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour à toutes et à tous. Le sud de Gaza bientôt libéré des troupes israéliennes. L'armée annonce son retrait d'une partie de l'enclave alors que les négociations reprennent autour d'une possible trêve. 800 000 personnes massacrées à coups de machette. C'était il y a 30 ans au Rwanda. Le pays commémore aujourd'hui le génocide des Tutsis. Nous serons à Kigali dans quelques minutes. Et puis comment raconter l'horreur, ne pas oublier les mécanismes et les politiques qui ont mené au massacre. Le journaliste et écrivain Jean Hatzfeld est l'invité de ce journal. En France, nous irons dans les Alpes, à Glières, où Emmanuel Macron débute une série d'hommages pour les 80 ans de la libération. Enfin, nous reviendrons sur ces annonces hier soir concernant les déserts médicaux, des promesses qui peinent à satisfaire les professionnels de santé. L'armée israélienne quitte le sud de Gaza, annonce de son porte-parole il y a un peu moins d'une heure. Bonjour Michel Paul.
Tilde, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, Michel, toutes les troupes au sol, à l'exception d'une brigade, auraient été déjà évacuées de la zone ce matin.
Oui Mathilde, c'est de fait la fin de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza avec le retrait ce matin de la 98e division du secteur de Khan Younes. Alors désormais dans l'enclave palestinienne est toujours déployée une autre division, la 162e division et également une brigade, principalement sur le tracé de l'axe qui coupe la bande de Gaza en deux. C'est la ligne qui empêche le retour des Gazaouis du sud vers le nord. Un porte-parole militaire annonce dans le même temps que les troupes israéliennes se redéploient tout autour de la bande de Gaza. C'est une nouvelle stratégie. Désormais, ce seront des incursions ponctuelles basées sur des renseignements précis des services de sécurité, notamment le Shin Bet et le renseignement militaire. L'armée souligne également qu'elle continue à se préparer à une opération dans la ville de Rafah et que ce redéploiement n'est pas lié à des pressions politiques ou aux ultimatums en provenance des États-Unis. Mais en tout cas, 6 mois après le 7 octobre, il semble clair que cette décision israélienne ouvre la voie à un accord de trêve avec le Hamas.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem pour France Culture. Hier soir, 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Tel Aviv pour de nouveau réclamer cet accord de trêve, ainsi que la démission de Benjamin Netanyahou. Le 4 ou le 5, il va se passer un petit quelque chose. L'annonce glaçante du génocide des Tutsis, c'était il y a 30 ans sur les ondes de la radio Mille Collines. Finalement, l'horreur débute le 7 avril 1994. En l'espace de 3 mois au Rwanda, c'est 800 000 personnes qui sont massacrées à coups de machettes, de fusils ou de gourdins par le régime, mais aussi par les citoyens hutus. Aujourd'hui, à Kigali, débutent les commémorations de ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle. Sur place, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, mais aussi franco-rwandais, et puis Nathanaël Charbonnier, de nombreuses autres personnalités venues pour l'occasion.
Des chefs d'État ou anciens chefs d'État comme l'Américain Bill Clinton ou le Français Nicolas Sarkozy et pas moins de 3000 personnes ont assisté dans l'une des grandes salles de la capitale aux cérémonies du souvenir. D'ailleurs, le mot est écrit en grosses lettres blanches sur fond noir, Qui Buka, qui veut dire souvenir, accompagné du chiffre 30. Au centre de la salle, un arbre en toile gigantesque avec des branches qui retombent vers le sol et qui pousse à se sentir tout petit face à l'horreur dont seul l'homme est capable et qui s'est déroulée ici il y a maintenant 30 ans durant 3 mois. D'ailleurs, la matinée a commencé un peu plus tôt devant le mémorial à Kigali dédié au génocide et où se trouvent des milliers de morts tutsis. C'est le président Paul Kagame en personne entouré de personnalités qui a allumé la flamme du souvenir qui brûlera durant les 100 jours à venir. Car ici au Rwanda, les hommages vont durer, notamment durant toute la semaine, avec un pays qui s'apprête à vivre au ralenti. La musique est interdite dans les lieux publics, remplacée par le souffle de l'émotion de tout un pays.
Et pour poursuivre cette réflexion autour de la mémoire du génocide, nous vous proposons une rencontre avec Jean Hatzfeld, journaliste, écrivain. Ça fait 28 ans qu'il documente les tueries. Il se rend régulièrement à Nyamata, petite ville de 20 000 habitants, au sud de Kigali, pour rencontrer, récolter les récits des témoins. Parmi ses ouvrages, La stratégie des antilopes, Une saison de machette ou encore Le papa de sang. Il est au micro de Mathieu Laurent.
Bonjour Jean Hatzfeld.
Bonjour.
Jean Hatzfeld, est-ce que ces cérémonies du 7 avril peuvent aider à des réparations et à célébrer la vie?
Oui, c'est un moment assez intense, c'est un moment très collectif, C'est un moment qui n'est pas partagé d'ailleurs, parce que les communautés, contrairement à ce qu'on croit, ne se réunissent pas à ce moment-là. Il faut peut-être un petit peu, il y a quelques tueurs qui peuvent venir dans des assemblées de Tutsis, mais enfin il n'y en a pas quand même beaucoup. Mais disons que les Tutsis peuvent se réunir sur leurs collines, en famille, avec leurs amis, et c'est une manière de repenser ensemble et peut-être aussi d'évacuer quelque chose. C'est parce que tout est très lourd, tout est très émotionnel, tout est très triste. Je ne crois pas que ça puisse éradiquer la peur. La peur existe toujours, pas la peur physique. Hein. Si vous voulez, une personne qui croise un agriculteur avec une machette n'a pas peur de lui en le croisant. Mais il y a quand même la peur des machettes. C'est une peur irréelle, c'est une peur existentielle.
Métaphysique,
parce qu'elle arrive dans les rêves. Donc on a toujours la crainte. Quand on a essayé de vous éradiquer de la terre une fois, on pense que ça peut revenir. Ça, c'est inévitable. Donc il y a cette peur-là qui est toujours un petit peu présente, qui va en diminuant au fil des années peut-être, mais qui est toujours présente et qui permet d'être un peu évacuée quand on se rassemble à beaucoup à un moment donné pour partager un moment fort, celui de la commémoration.
Est-ce que selon vous, du bien peut naître de ce chaos qui parcourt encore les âmes et qui les blesse ?
Absolument pas. Il ne peut pas y naître du bien. Il peut survivre du bien qui existait et qui peut ressusciter un petit peu. C'est-à-dire, on peut requinquer un peu la société, on peut renouer des relations, il y a une cohabitation qui est possible, on peut jouer au foot ensemble, on peut aller au dispensaire ensemble, on peut participer, adhérer à des associations agricoles, des associations de femmes, etc. Donc on peut revivre cela, naître du bien nouveau, si c'est ça votre question. Non, ça, on peut pas, c'est trop destructeur. L'extermination, le génocide détruit les âmes, détruit les corps, détruit les esprits, détruit les croyances, c'est que de la destruction. C'est pas comme une guerre. La guerre, effectivement, il peut naître du bien d'une guerre, mais par exemple la libération d'un pays. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il peut rien naître de bien et de positif. Il n'y a rien à espérer, sinon que ça se passe de mieux en mieux et que les générations futures puissent renouer avec une existence quasiment normale dans 4, 5, peut-être plus générations, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le poids de l'héritage.
Jean Sfeld, en 30 ans, qu'est-ce qui a pu être malgré tout réparé ?
Ce qui peut être réparé, c'est d'abord que les rescapés soient crus. Donc ça, c'est vraiment formidable. Ils ont pu parler, ils ont pu oser parler, ils sont crus. Ce qui peut être réparé, c'est la vie. Parce que une forme d'existence qui n'est plus celle d'autrefois a été coupée par la machette, mais c'est une nouvelle existence. Et il n'y en a qu'une existence par personne. Et cette existence, elle est sauvegardée pour ceux qui ont réussi à survivre et pour leurs enfants. Donc ça c'est une réparation, parce que tout le monde aurait pu être englouti et tout le monde n'a pas été englouti. Donc maintenant, les personnes survivantes, elles ont perdu leurs enfants, elles ont perdu beaucoup de choses, elles ont perdu beaucoup d'illusions, etc. Elles ont perdu l'amour de soi, quelquefois. Elles ont perdu les espoirs de notoriété, ou elles ont perdu leur ambition, et ça. Mais elles ont gagné quand même la vie. Donc la vie existe, elles vivent. La vie, on a décidé ainsi, il faut la suivre. Et donc ça, c'est quelque chose de gagné. Et puis aussi, ils ont pu récemment, de plus en plus, c'est pas fini, retrouver un peu les traces de ceux qu'ils ont perdus, c'est-à-dire retrouver les ossements, par exemple. Beaucoup de tueurs, maintenant, acceptent, pas tous, et d'ailleurs, ceux qui le font pas, on se demande pourquoi, beaucoup acceptent de dire les circonstances exactes des tueries, et donc beaucoup de gens retrouvent les ossements et peuvent faire le deuil, un vrai deuil, c'est-à-dire dans un cimetière avec une tombe, etc.
L'inhumation.
Voilà, même si c'est juste un tibia ou une clavicule, c'est pas très important, mais l'important c'est de pouvoir enfouir, de se réunir et de penser à la personne disparue. Ça c'est possible, donc il y a beaucoup de petites choses, pas de petites choses, je m'exprime mal, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui existent et qui permettent d'avancer, de continuer à vivre, d'avoir quelquefois le sourire, d'avoir des amis, etc. Même il y a des amis interethniques, moins qu'on le dit, mais enfin, il y en a quand même. Enfin, il y en a beaucoup à Kigali, il y en a beaucoup moins en province, mais il y en a quand même. Mais il n'y aura pas de gain à cela. Ça a permis l'essor d'un homme nouveau. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'homme et de femme nouvelle dans cette histoire. Il n'y a que des gens abîmés. Que des gens abîmés. Voilà.
Entretien avec Jean Asfeld, signé Mathieu Laurent, à réécouter sur le site de France Culture. Lui n'était pas à Kigali ce matin et pour cause, Emmanuel Macron avait rendez-vous avec l'histoire dans les Alpes, à la nécropole de Thônes. Il doit présider ce midi une cérémonie en hommage aux maquisards du plateau de Glières, tué en mars 44 par l'occupant allemand et la milice française. Mathilde Imberti est sur place et Emmanuel Macron vient juste d'arriver.
Le président de la République va passer les troupes en revue, en l'occurrence le 27e bataillon de chasseurs alpins, bataillon central dans ce massif de ce plateau des Glières qui a tenu 3 mois ce maquis des Glières début 1944 jusqu'à l'encerclement par les Allemands aidés de la milice et de la garde mobile française. Ce maquis, spécificité qui était composé de montagnards, de francs-tireurs partisans, de réfractaires du STO, le travail obligatoire en Allemagne, et également d'antifranquistes espagnols, des résistants dont on commémore la mémoire depuis 1944, rappelle Gérard Métral, président de l'association des Glières.
Alors cette cérémonie, elle date de 1944, donc vous voyez, dès la fin de la guerre, les rescapés des Glières ont orchestré leur mémoire et ont fait en sorte que chaque année, au moment de la date de la fin du maquis des Glières, on se retrouve, si vous voulez, ici, pour commémorer les morts. Aujourd'hui, ça prend une nouvelle signification, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus évidemment de rescapés. Et puis en même temps, on avait un message très fort de leur part de continuer cette mémoire, de la faire perdurer et surtout de l'expliquer. Ces valeurs, c'est avant tout la fraternité, c'est avant tout le respect de l'un pour l'autre. Et ça fait partie, si vous voulez, des choses qu'on doit nous enseigner et en même temps qu'on doit porter compte tenu des événements qu'il y a aux portes de l'Europe.
Voilà, Emmanuel Macron attendu ici alors que des enfants sont en train de lire des textes qu'ils ont préparés. Avec eux, il va fleurir les 105 tombes de la nécropole de Morette. Des enfants nombreux, ils sont un peu plus de 600, jeunesse présente, car c'est aussi un message de transmission que le président français veut faire passer.
Et après le plateau de Glières, Emmanuel Macron est attendu à la maison d'Izieux cet après-midi, devenue mémorial des enfants juifs exterminés, là où le 6 avril 44, 44 enfants juifs étaient raflés par la Gestapo sur ordre de Klaus Barbie, avant d'être déportés et assassinés à Auschwitz. Dans l'actualité française également, ces annonces hier soir de Gabriel Attal concernant l'accès aux soins. 2 mois après son discours de politique générale, le Premier ministre a précisé son plan pour les déserts médicaux. Il veut obtenir, je cite, « des résultats rapides et concrets pour les Français », avec des mesures comme la révision des gardes de nuit ou encore une taxe lapin de 5 euros pour chaque rendez-vous non honoré. Estelle Camérère, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Ce matin, le milieu médical est plutôt remonté.
Le secteur ne trouve pas de sens dans ces annonces. Dans les cas des permanences de nuit, assurées de 18h à minuit les week-ends, Matignon assure que 5% du territoire n'est pas couvert et veut proposer une prime aux médecins volontaires. Pour Franck De Vulder, président du syndicat médical CSMF, ce n'est pas la solution.
Dans ces territoires, si elle n'est pas assurée, ce n'est pas parce que les médecins ils ont décidé de ne pas l'assurer, c'est parce qu'ils sont plus en nombre suffisant ou plus du tout présents. On ne peut pas accuser aujourd'hui les médecins d'en être responsables et on ne peut pas accuser aujourd'hui les Français de consommer trop de soins. C'est-à-dire, on le savait que la population allait vieillir.
Selon le gastro-entérologue, cette mesure va seulement repousser les médecins qui ne voudront pas s'installer dans certains territoires et ne pas se surcharger de travail. Quant à la taxe lapin, c'était une demande très forte, mais Franck De Vulder pense que ce devrait être la dernière des solutions. Il préférerait assouplir les règles, car aujourd'hui, si un médecin refuse de prendre un patient qui a annulé plusieurs rendez-vous, le risque est d'être poursuivi en justice pour refus de soins.
Assouplissons les choses afin que celles et ceux qui font preuve d'aussi peu de civisme, leur médecin puisse leur dire « Écoutez, je ne vous prendrai plus en charge parce que voilà 3 rendez-vous consécutifs que vous n'honorez pas. » Et puis si ça finit par pas marcher, à ce moment-là, on tape au porte-monnaie.
Mais le plus choquant pour le secteur, c'est la surprise totale de ces annonces. En pleine période de négociation avec l'assurance maladie, le ministre de la Santé ne les avait jamais évoquées pendant les dernières réunions. Une attitude que les syndicats trouvent inacceptable.
Merci Estelle Camérère. Un mot du temps pour cet après-midi. Le ciel continue de se voiler de l'Aquitaine à l'Alsace. Quelques éclaircies sur le sud-est et la pointe bretonne. Les températures à la mi-journée sont comprises entre 15 et 25 degrés. Il fait 16 à Paris, 19 à Lille, 19 également dans le sud, à Marseille, à Perpignan, 22 à Limoges et Aurillac et 25 les maximales du côté de Lyon. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Emily Chili, Félix Delacour était à la technique.